On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chloé, je suis une élève de 4e du collège Yvon Moranda. Je suis accompagnée de Camille, une camarade de classe.
Bonjour, nous allons vous présenter une émission de radio sur les migrants. Au programme, des micro-trottoirs, des interviews, des textes réalisés par différents groupes d'élèves de la classe.
Nous avons choisi de parler du voyage de ces personnes qui viennent en Europe car c'est un sujet d'actualité. Camille, tu es allée à la rencontre des Burgiens avec Ambre.
Oui, notre objectif était d'avoir les différents points de vue des adultes sur le voyage des migrants.
Selon vous, d'où viennent les migrants ?
Ils viennent du sud, il y en a aussi du nord, de Roumanie, tout ça, il y en a un peu partout.
Afrique, Syrie, pas bien ailleurs. Hein.
Les migrants ? Ils viennent un peu des pays de l'Est, un peu de partout. Hein.
Selon moi, d'où viennent les migrants ? Des pays qui sont en détresse, mais on peut pas accueillir toute la misère du monde.
Pays de l'Est.
Afrique ?
Des pays qui ont des problèmes de guerre ou des choses comme ça. Des pays en difficulté, quoi.
D'après vous, pourquoi les migrants fuient leur pays ?
Ils sont pauvres, il y a des tensions politiques, ils sont pas contents chez eux, quoi. Ils peuvent pas vivre.
Pour la guerre, déjà. La guerre et puis le climat, changement de climat.
Ils les quittent parce qu'ils ont la guerre ou qu'ils ont la famine ou parce qu'ils fuient, parce que soit ils crèvent de faim, soit ils ont pas de travail, ou il y a la guerre, bien souvent.
Parce qu'ils ont sans doute des conditions de vie qui ne sont pas humaines, sûrement, j'imagine.
Les raisons politiques. À cause du régime qui est dans leur pays, à cause des guerres, à cause de la destruction. Et ils rêvent d'un avenir meilleur. Enfin, ils pensent qu'en venant ici, ils trouveront quelque chose de mieux.
Ils n'ont soit rien à manger, soit rien pour vivre, soit ils sont persécutés pour des différentes raisons.
Pour la pauvreté, parce que... Ils n'ont pas à manger.
Eh bien, ils fuient leur pays parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils sont nécessiteux, ils viennent ici pour gagner leur vie.
D'après vous, comment se passe leur voyage ?
Mal, c'est dangereux. Il y en a plein qui meurent en mer, et dans le Sahara ou ailleurs.
Les pauvres, ils prennent des passeurs qui les laissent en route, qui leur prennent tout leur argent puis qui les laissent en route. Hein. Et bien souvent, ils finissent la plupart noyés ou parce qu'ils sont sur des bateaux surchargés. Bien triste pour eux, mais...
Très dangereux et très précaire.
D'après ce qu'on en sait, mal. Soit c'est par bateau et ils peuvent se noyer, soit ça leur coûte très cher, de toute façon.
Clandestinement, en bateau ou dans les camions.
Je pense que c'est très difficile. Je pense qu'ils n'ont pas tous les jours à boire, à manger. Après, ça dépend comment ils viennent, mais oui, je pense que c'est très difficile, dans des conditions très difficiles.
Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous ?
Eh bien, à vrai dire, j'en sais trop rien. C'est compliqué de répondre à votre question, là. C'est très compliqué.
Je suis perplexe, parce que je suis pas dans la même situation. Alors c'est difficile de se mettre à la place des autres.
Je sais pas, si j'ai les moyens, je partirais, mais il faut aussi avoir les moyens, comme il faut payer les passeurs et tout. Dans mon cas actuel, je crois pas que je pourrais.
Difficile de répondre, mais on essaierait n'importe quel moyen, je pense, pour aller vivre une vie meilleure.
Si je vivais dans un pays qui est en guerre, peut-être que pour protéger ma famille, peut-être que je ferais comme eux, je m'en irais aussi, en espérant trouver mieux pour ma famille.
J'espère ne pas y être. C'est bête à dire, mais je ferais la même chose qu'eux, quoi.
Il faut les accueillir. Je pense que c'est à nous de leur donner un petit élan pour qu'ils retrouvent leur stabilité dans leur pays.
Difficile de répondre à cette question, parce qu'on ne peut pas savoir exactement dans quelle situation ils sont, et c'est extrêmement délicat. Peut-être qu'on ferait tout pour avoir de la liberté, bien sûr, je pense.
Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Maintenant, nous écoutons Amine et Walid nous expliquer les causes du départ de ces personnes.
Combien y a-t-il de migrants dans le monde ?
Il y en a environ 272 millions.
D'où viennent principalement les migrants en Europe ?
Les migrants viennent principalement d'Afrique.
Quelles sont les raisons de départ des migrants ?
Les causes de départ des migrants sont majoritairement des causes de pauvreté, de conflits, de difficultés sociales, politiques ou des problèmes environnementaux. Les migrants fuient leur pays d'origine. Ils ont tous l'espoir d'une vie meilleure en dehors de leur pays.
En général, que pensent les migrants de l'Europe ?
Les migrants pensent que l'Europe peut leur apporter une solution, que ce soit un travail, un logement ou une bonne scolarité.
Où vivent-ils en attendant l'asile ?
Les migrants sont accueillis par des associations qui leur trouvent de quoi manger et un endroit où dormir durant leurs 40 premiers jours. Et après, ils vivent par leurs propres moyens si on leur a accordé l'asile.
Qu'est-ce que l'asile ?
L'asile est un papier qui prouve que l'on est un réfugié et que l'on est en danger dans notre pays d'origine. Cette personne a donc le droit de rester en France légalement.
Ensuite, comment vivent-ils ?
Ils vivent dans des tentes ou des hôtels pour migrants.
Lorsqu'ils ont l'asile, que deviennent-ils ?
Ils peuvent trouver un travail, un logement et une scolarité pour leurs enfants. Ils retrouvent une vie normale.
Ont-ils des aides ?
Oui, ils sont aidés par des associations spécialisées pour les migrants qui leur donnent à manger et les aident à trouver un logement.
Heureusement qu'ils viennent en France et qu'ils sont accueillis ainsi au lieu d'être en danger dans leur pays.
Oui, ce n'est pas si facile de tout quitter et d'arriver ainsi dans un pays étranger où on ne connaît rien ni personne.
Camille, tu sais que dans notre collège, il y a des élèves venant d'autres pays. Ils sont scolarisés dans la classe de l'UPE2A qui les aide à apprendre le français.
Oui, d'ailleurs, Tony et Elon sont allés à la rencontre de deux d'entre eux.
De quel pays viens-tu ?
Je viens de la Gambie.
Je viens d'Angola.
Depuis combien de temps es-tu en France ?
Je suis en France 3 mois.
Ça fait 3 mois.
Pour quelle raison tu es venu ?
Je viens en France pour travail.
Pour problème de mes familles. Pour problème de scolarité aussi.
Quel moyen de transport as-tu utilisé ?
J'ai pris voiture, Gambie, jusqu'en Libye. Après, j'ai pris un bateau d'Italie. Après, j'ai pris bus jusqu'en Torino. Après, j'ai pris train jusqu'en France, à Besançon.
Je viens d'avion, de Angola à Portugal. Après, de bus de Portugal en France.
As-tu eu besoin d'un passeur ?
Oui, je viens avec quelqu'un, c'est mon cousin.
Et je viens avec ma mère et ma soeur.
Quelles étaient les conditions de trajet ?
Et voiture, c'est long.
Quels sont les objets que tu as pris durant le trajet ?
Mes vêtements, photos de mes amis, de ma famille, et mon portable.
J'ai pris mon sac à vêtements.
Combien de temps as-tu mis pour arriver ?
C'est beaucoup de temps.
Des jours.
As-tu été aidé par des associations ?
Oui, quelqu'un m'a pris à la gare. J'ai porté la police. La police appelait l'association.
Et une association aussi.
Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton pays ?
Oui, je manque mon père avec ma mère.
Et je manque ma ville, les climats aussi, mes amis.
Souhaites-tu retourner dans ton pays ?
Oui. Oui, je vais retourner après, oui.
Non, parce que là-bas, pas de scolarité.
Merci à eux d'avoir répondu aux questions malgré la barrière de la langue et la douleur de leur histoire. Après ce témoignage, Louise et Zeynep vont nous en dire plus sur les conditions du trajet.
Nous allons vous parler des conditions de voyage des migrants.
Nos sources proviennent de GéoAdo de notre collège.
Chaque jour, 8000 migrants arrivent en Europe.
Ils viennent de différentes zones du globe, Afrique, Inde, etc.
Contrairement à ce que l'on croit, seuls 20% des migrants africains se dirigent vers l'Europe. Les personnes de l'Afrique centrale vont vers l'Afrique du Nord, Maroc ou Égypte.
Tous veulent avoir une vie meilleure.
Les migrants empruntent les routes, à pied, en train, en camion, en voiture ou par la mer.
Pour arriver en Europe, les migrants font appel à des passeurs. Ce sont des personnes qui les font passer illégalement d'un pays à un autre. Ils payent extrêmement cher. Ça veut parfois coûter 8000 euros.
Waouh, c'est cher.
Et pour ce prix, j'espère qu'ils voyagent bien.
Non, c'est horrible. J'ai lu dans GéoAdo le parcours de Hamzan, un ado syrien de 13 ans.
Ah bon, j'aimerais bien savoir comment ils arrivent en Europe.
Hamzan est monté dans un camion pour arriver en Turquie. Après, il a embarqué sur un bateau pneumatique avec d'autres personnes.
Il n'a pas eu peur ?
Bien sûr que si. En plus, il n'avait pratiquement rien à manger ni à boire. Il était obligé de faire ses besoins dans l'eau.
C'est dégoûtant, je n'aimerais pas être à sa place.
Je ne me rendais pas compte de la difficulté du trajet avant de lire ces témoignages.
Ce n'est pas normal qu'un enfant de 13 ans voyage seul dans ces conditions.
Je suis d'accord.
Ce texte vous a expliqué les conditions difficiles du voyage. Nous allons maintenant entendre d'autres témoignages d'élèves de la classe de l'UPE2A.
D'où viens-tu ?
Je viens du Kosovo.
Je viens de Géorgie.
Je viens de Russie à Moscou.
Je viens du Sénégal.
Pourquoi es-tu parti de ton pays ?
Parce que j'avais des problèmes.
J'ai des problèmes en Russie.
Parce que j'ai un problème à l'école.
Avec quel moyen de transport es-tu venu?
J'ai venu en bus et j'ai fatigué un peu. Je viens en avion.
Je viens en voiture.
Quand tu es parti, qu'est-ce que tu as emmené avec toi?
J'ai parti en octobre 2018. Bah, j'ai emmené le photo de classe quand j'ai fait quand j'étais petite. J'ai pris mon cahier quand j'ai écrit tous mes jeux.
Mon ordinateur et mon téléphone et mes vêtements.
J'ai pris des livres, le vêtement, sac à dos et un manche avec téléphone.
Merci Néane et Chloé. Sur le même thème, Anne-Laure Bondou, une romancière, a écrit Le Temps des Miracles. Un livre qui raconte le parcours douloureux d'un migrant du Caucase jusqu'en France. Axel l'a interviewé.
Anne-Laure Bondou, bonjour.
Bonjour Axel.
Pourriez-vous nous résumer Le Temps des Miracles en quelques mots?
Comment ça, vous l'avez pas lu? Alors, résumer Le Temps des Miracles, c'est pas facile parce que je pense qu'il faut pas déflorer la fin du roman. Mais c'est l'histoire d'un petit garçon. Enfin, au début, on le découvre, il est déjà jeune adulte, il attend un avion qui va l'emmener de Paris à Tbilissi, qui est la capitale de la Géorgie. Et là-bas, il espère retrouver une femme dont il a perdu la trace il y a des années, qui s'appelle Gloria. Et pendant qu'il attend son avion, on va avoir un grand flashback où il va nous raconter qui est Gloria pour lui et comment ils ont été à la fois ensemble et ensuite séparés. Et toute l'histoire de ce roman, c'est justement l'histoire de ces deux personnages qu'on va suivre depuis la Géorgie jusqu'à la France à travers des années d'errance.
Bonjour, qu'est-ce qui vous a inspiré Le Temps des Miracles?
Alors, ce qui m'a inspiré Le Temps des Miracles, c'est plusieurs choses. D'une part, au tout début, je voulais raconter une histoire un peu terrible, avec beaucoup de catastrophes, beaucoup de drames, mais dans laquelle il y aurait un personnage qui serait toujours positif, toujours, comme on dit, en train de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. J'avais envie d'un roman optimiste, bizarrement, mais qui se passerait dans des circonstances très difficiles pour les personnages. Ça, c'était ma première intention. Le personnage optimiste, vous l'avez reconnu, c'est Gloria, qui est tout le temps en train de répéter à Blaise ou Koumaïl, selon comment on l'appelle, c'est pas grave, il faut avancer, il faut toujours regarder à l'horizon, il faut toujours penser aux belles choses, etc., malgré les difficultés de la vie. Donc ça, c'était ma première intention. Ensuite, autour de ça, se sont greffées beaucoup de choses. J'avais envie de parler du mensonge, et de pourquoi on raconte des histoires, c'est-à-dire d'essayer de trouver la différence entre est-ce que raconter des histoires, puisque c'est mon métier par exemple, est-ce que c'est raconter des mensonges, ou est-ce que c'est s'arranger avec la réalité, est-ce que c'est la masquer, ou bien est-ce que c'est aussi l'enjoliver pour rendre la vie supportable, comme dit Gloria. Et puis, ensuite, s'est greffée autour de ça une grande question que je me posais et que je me pose toujours, qui concerne l'exil. C'est-à-dire, je voulais essayer d'explorer quelles sont les émotions et les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on doit tout quitter, pour des raisons souvent liées à la guerre, etc., et s'arracher à tout ce qu'on connaît, à tout ce qui fait qu'on est en terrain familier et qu'on doit aller vers l'inconnu. Voilà comment tout ça est venu.
Pourquoi avez-vous écrit un livre sur le thème des migrants?
Alors, tu vois, voilà, c'était pas vraiment un livre sur le thème des migrants, parce que, alors, d'une part, je l'ai écrit il y a assez longtemps, ce livre. Hein, il est sorti en 2009, et à l'époque, on disait même pas migrant. Ce mot n'existait pas dans le langage médiatique. On parlait d'immigration, on parlait d'exilés, on parlait de réfugiés politiques. Pourquoi? Parce que ça a toujours existé, les gens qui doivent fuir un endroit pour essayer de trouver la sécurité ailleurs. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Ma famille est depuis très 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 longtemps installée en France, et moi je suis née en France, voilà, donc je n'ai pas connu ce déracinement. Mais bien sûr, je suis une citoyenne comme tout le monde et j'entends parler de ces histoires-là. Je vois autour de moi évidemment des gens qui ont connu ces arrachements. Et ça m'a toujours interrogée de savoir comment on peut survivre à un tel bouleversement. Et en fait, quand j'écris, c'est une façon pour moi d'essayer de comprendre ce que je ne connais pas. Donc c'est pour ça que je me suis intéressée à ces trajectoires. Mais tu vois, à l'époque, on ne disait pas, entre guillemets, c'était pas un thème à la mode, on va dire. C'est un thème qui a toujours traversé toutes les époques, mais ça n'avait pas ce côté un peu à la mode qu'il y a aujourd'hui, quoi.
Comment existe-t-il ? Si oui, l'avez-vous déjà rencontré ?
Alors, je pense qu'il existe, bien sûr, mais il n'existe pas en tant que Kumaï. J'ai inventé ce personnage à partir à la fois de ma sensibilité, à la fois de choses que j'ai lues ou de documentaires que j'ai vus, etc. C'est un personnage imaginaire. Malgré tout, j'ai rencontré des sortes de Kumaï. Avec ce livre, notamment, parce que je suis allée à la rencontre de beaucoup de lecteurs dans des collèges un peu partout en France. Et il y a eu plusieurs fois l'occasion de rencontres avec des jeunes qui avaient vécu ça, c'est-à-dire un déracinement de différents endroits du monde. Hein. Ça pouvait être des pays asiatiques, des pays africains, des pays justement un peu de cette région du Caucase. Et j'ai rencontré donc même des Géorgiens qui avait à peu près l'âge de Koumaïl, enfin quand il arrive chez Madame Georges au collège, et qui m'ont parlé de leur expérience en disant que le livre les avait beaucoup touchés parce qu'ils s'étaient retrouvés dans le personnage de Koumaïl.
Pourquoi avez-vous choisi le Caucase comme pays de départ ?
Alors ça, c'était un peu un petit défi personnel. Je n'y suis jamais allée dans le Caucase. J'aime bien écrire à partir de sensations et de mon imaginaire, puisque je ne suis pas journaliste, moi, je suis écrivain. Donc je n'ai pas une démarche journalistique, je n'essaye pas de faire un documentaire ou un article de journal. J'essaye de faire sentir des choses qui sont un peu universelles. Et je trouve que parfois, on y arrive peut-être mieux quand on se sert de son imaginaire plutôt que de beaucoup de documents. Ou parfois, la réalité, elle peut être tellement complexe et envahissante que du coup, moi, j'arrive moins à m'en emparer que si je pars de mes sensations et de mes impressions. Et pourquoi le Caucase ? Parce que j'avais écrit juste avant un roman qui se passait en Europe, mais entre la France et la Bulgarie. Et les personnages arrivaient au bord de la mer Noire, côté bulgare, et j'avais donc une grande carte installée dans mon bureau, une carte routière qui couvrait tout ce territoire, et la carte s'arrêtait à la moitié de la mer Noire. Et pendant tout le temps où j'écrivais ce roman-là, je me disais, mais de l'autre côté, c'est quoi déjà ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi la suite de la carte ? Et bien la suite de la carte, en fait, c'est le Caucase, de l'autre côté de la mer Noire, et par jeu, on pourrait dire, je me suis dit, le roman suivant, il commencera de l'autre côté. Et je me suis intéressée à cette région du monde comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une région très intéressante parce que d'abord, elle est assez méconnue. Et ensuite, elle permettait de raconter justement beaucoup de conflits, des peuples, une mosaïque de peuples, comme on dit, qui vit dans cet endroit-là. Il y a beaucoup de langues différentes, de religions différentes, d'origines différentes. Et je trouvais que du coup, c'était assez intéressant de raconter une histoire qui se passait dans cet endroit du monde.
Quand vous avez écrit Le Temps des Miracles, à qui voulez-vous vous adresser ? Adulte ou enfant ?
Écoute, un petit peu les deux, pour tout dire, parce que moi, j'aime bien, quand j'écris, me dire que un texte, un roman, un personnage peut toucher à n'importe quel âge. Alors bien sûr, pas à 5-6 ans, parce qu'il faut quand même avoir à la fois les moyens technique de la lecture et puis aussi un petit peu de recul sur les choses. Mais disons qu'à partir du collège, à partir de 11-12 ans, je pense qu'on peut facilement entrer, dès lors que le texte est intéressant et pas trop difficile à lire, on peut entrer dans n'importe quel univers. En tout cas, c'est un peu mon ambition. Et je n'exclus pas les adultes. Donc j'ai envie de pouvoir, à travers ce roman-là et puis d'autres que j'ai écrits, contenter un petit peu les lecteurs de tous les âges à partir de 11-12 ans. Donc tu vois, je pensais à tout le monde en fait un petit peu.
Merci à Anne-Laure Bondou de nous avoir accordé un peu de temps pour nous parler de son livre. Mais Chloé, connais-tu d'autres livres qui parlent des migrants et des migrations ?
J'en connais quelques-uns, mais demandons plutôt à Zainab et Axel qui ont préparé une petite chronique sur ce sujet.
Axel, connais-tu un autre livre que celui d'Anne-Laure Bondou sur le thème des migrations ?
Oui, j'ai lu La traversée de Jean-Christophe Tixier. C'est un livre qui parle d'un jeune garçon qui se nomme Sam. Il a 17 ans et veut partir en Europe pour avoir une vie meilleure. Il tente la traversée en bateau avec des hommes, des femmes et des enfants. Sam est le navigateur, mais il va y avoir une tempête et le bateau va se retourner. En attendant les secours, il aide les autres à survivre et il s'occupe l'esprit en pensant à Maïssa, sa sœur qui ne voulait pas qu'il parte, et à son meilleur ami Youssouf.
Ça a l'air intéressant. Moi, j'ai lu Frères d'exil de Kochka.
Ça parle de quoi ?
Ce livre parle d'une famille qui vit sur une île depuis des années. Elle est composée de Janek, le père, Yumi, la mère, Nani, la petite fille, et les grands-parents de Nani. Suite à des pluies incessantes, ils doivent quitter l'île à cause de la montée des eaux. Les grands-parents de Nani ne peuvent pas quitter l'île car ils sont handicapés. Avant de partir, le grand-père écrit des lettres à sa petite fille. Il lui donne pour qu'elle ne l'oublie surtout pas, ainsi que les traditions de son île.
Jean-Paul Nozière a écrit sur cette thématique.
Ah oui, son livre s'appelle « Tu ne peux pas rester là ».
Au CDI de notre collège, il y a des fiches de lecture. Des élèves racontent l'histoire. Il y a 6 ans, Oua et Mei ont quitté la Chine pour aller vivre à Sponge, une petite ville au nord de la France. Mei va à l'école et veut être présidente de la République française quand elle sera grande. Oua, elle travaille comme couturière dans un atelier. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais un jour, le commissaire veut renvoyer ses sans-papiers dans leur pays. Et leurs amis vont tout faire pour que Mei et Oura restent en France.
Il y a aussi des films qui parlent de migrants. Connais-tu le film Welcome de Philippe Lioré ? Il parle d'un garçon qui s'appelle Bilal. Il veut rejoindre sa petite amie en Angleterre. Du coup, il doit apprendre à nager. Son prof de natation l'aide. Mais comme Bilal n'a pas de papier, il leur arrive plein de problèmes.
Il y a aussi le film Une saison en France de Mohamed Saleh Haroum. Il parle d'un père et deux enfants. Ils sont tous étrangers et ils sont installés en France. Mais un jour, ils reçoivent une lettre qui leur demande de quitter la France pour rentrer dans leur pays natal. S'ils ne partent pas, ils devront payer une amende. Ils vont donc devoir se cacher.
Et il y a encore plein d'autres œuvres à découvrir sur le sujet.
Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de lire quelques-uns de ces livres.
Maintenant, vous en savez un peu plus sur les migrants et leurs conditions de trajet. Ne vous fiez pas toujours aux préjugés et n'hésitez pas à faire preuve de générosité envers eux.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Radio B de nous avoir guidés pour faire cette émission.
Merci à toutes les personnes qui ont participé et donné leur temps pour ce projet.
Merci à tous les élèves.
Zeynep,
Ambre,
Zainab,
Néhan,
Chloé,
Tony,
Walid,
Amine,
Elon.
Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radio-b.fr dans la rubrique Les émissions, les ateliers de Radio B.
Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs.